Tout commence à Tournai. En 1872, une famille plutôt traditionnelle donne naissance à Eugène et 5 ans plus tard, c'est Hélène qui naît le 10 juillet, pour être précise. La famille Dutrieux déménagera à Lille, à quelques dizaines de kilomètres de leur première maison. Comme beaucoup d'enfants, Eugène adore faire du vélo. Et lorsqu'il court sur la piste, sa sœur le suit. D'ailleurs, quand lui n'y va pas, subtilement, elle lui emprunte, pour ne pas dire vole, son vélo pour faire des tours de terrain. Et de manière plutôt inattendue, c'est Hélène qui sera remarquée parce que ce petit bout de femme, âgée d'une dizaine d'années seulement, se révèle être très rapide sur un deux roues. Quelques années plus tard, alors qu'ils feuillettent tous les deux le journal, ils lisent qu'à Paris, une femme a battu le record du monde de vitesse en vélo. Eugène, premier fan de sa frangine, assure qu'elle pourrait battre ce dernier record. Elle teste, et en effet, elle l'explose. Problème, c'est qu'on ne la croit pas. Elle réitérera donc son exploit lors d'une course homologuée. Il était une fois Hélène Dutrieux. Je vous l'ai pas dit, mais elle n'a que 14 ans quand elle réalise cette véritable prouesse. Paris lui somme de venir à la capitale, ses parents s'y opposent, mais Hélène, déterminée et plutôt casse-cou, enfourche son vélo, prend le train, arrive à Paris et cherche le vélodrome Buffalo. Ce sera donc le début d'une carrière incroyable pour la jeune tournaisienne.
Donc elle a fait beaucoup de courses de cyclisme à Paris, mais dans d'autres pays, on voulait aussi que Hélène venait chez eux. Donc elle a fait des courses en Angleterre. Et le cyclisme dans ce temps-là, c'était très populaire. Beaucoup de monde venait simplement pour voir les femmes sur vélo. Et parce que c'était des femmes qui faisaient du vélo, c'était du nouveau. Parce que les femmes n'avaient pas des jupes très longues, donc parfois on pouvait voir un petit truc de leur peau. Et aussi parce que les femmes, elles tombaient aussi, donc c'était un spectacle énorme. Donc Hélène, elle était une très bonne cycliste, elle a gagné sa vie avec ça. Donc ça c'est très important, elle était une jeune fille, mais elle gagnait sa vie en faire du vélo, bien qu'elle était prévue pour avoir une vie dans les usines ou comme femme de ménage. De retour en Belgique, elle a fait 2 fois champion du monde.
Le record de l'heure. Aujourd'hui, jeudi, à 5h du soir, Mademoiselle Debat tentera le record de l'heure à Buffalo. Actuellement, ce record a été établi par Mademoiselle Dutrieux sur le vélodrome de Lille avec 31,2 km/h. Hier, à Bruxelles, Madame Dutrieux de Lille a battu le record de l'heure de Madame Debat de Paris en courant 38 km et 746 mètres en ligne. Mademoiselle Dutrieux est connue de tous les amateurs de sport de notre région. Jamais aucun d'eux n'a vu un tel démon furieux sur son vélo. Dès ses débuts sur la piste, elle a été une révélation. Tous ceux qui la voyaient à l'œuvre étaient étonnés. Qu'une dame aussi frêle puisse faire avancer son vélo aussi vite. Elle a battu le record de l'heure et l'a établi à 39 km/h. Il aura fallu plus de 20 tentatives et 3 ans pour battre son record.
Et au fin des années 90, le cyclisme a perdu un peu de son intérêt parce qu'il y avait des autres nouveaux jouets, des motos, des voitures, et l'intérêt des gens était sur un autre truc. Donc Hélène, elle voyait qu'elle ne gagnait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de courses pour les femmes, aussi parce qu'en quelques pays, c'était interdit. En Pays-Bas, on ne pouvait pas avoir des courses pour les femmes. Donc Hélène dit, ok, c'est la fin d'une très belle carrière, mais je dois m'arrêter. Elle ne pouvait plus gagner son argent. Donc Hélène était à Paris, mais elle revient à Lille. Et elle ouvre un magasin de vêtements. Mais bien qu'elle était très créative, le magasin ne marchait très pas bien. Et après 1 an ou 2 ans, le magasin est faillite. Et Hélène dit, ok, je dois faire quelques autres trucs. Elle avait gagné d'argent, elle avait épargné de l'argent. Elle était adepte du théâtre et de musique. Donc elle dit, ok, je veux être chanteuse ou peut-être comédienne. Et elle part à Paris. Elle prend quelques leçons chez un professeur de musique, mais il dit « Oui, tu as une très belle voix, mais tu ne peux pas vraiment chanter. Tu peux être une comédienne sur le théâtre, mais vraiment chanter comme l'opéra, ce n'est pas possible. » Donc Hélène est débutante à Paris. et elle cherche des petits rôles. Et il y a un théâtre qui est très intéressé à elle parce que elle est célèbre et on lui donne un premier rôle. Et c'est le rôle d'une cycliste dans un petit spectacle. Et le théâtre est vraiment plein de gens parce que ce sont surtout les amateurs du cyclisme qui viennent le voir.
Mademoiselle Dutrieux rentre en scène. Non en piste, en scène. Mademoiselle Dutrieux, dont on n'a pas oublié la brillante carrière cycliste, va d'ici peu interpréter au théâtre Déjazet le principal rôle d'une pièce étrangère dont la traduction est intitulée « Monsieur le maire ». Ajoutons que d'ailleurs cette pièce renferme de fréquents passages où le sport est mis à contribution. Je ne jurerais même pas que Mademoiselle Dutrieux n'aurait point à cycle en scène, ce qui lui rappellera ses succès d'antan.
Et un soir, elle est en train de marcher dans Paris avec une copine et elle voit une affiche. Et sur l'affiche, il y a un type qui s'appelle Diavolo sur un vélo qui fait un truc bizarre. Il fait un looping avec le vélo et la copine dit à Hélène, peut-être ça c'est quelque chose pour toi. Donc Hélène dit, ok, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le lendemain, elle va chez un théâtre, elle propose de faire le même truc. Et le directeur du théâtre dit, oui, c'est bien que vous voulez faire ça, mais j'ai beaucoup d'amateurs qui veulent faire ça. C'est très dangereux et vous êtes une femme, donc on n'accepte pas. Mais Hélène est très têtue et elle cherche quelques gens pour l'aider à faire un truc pareil. Et elle tombe sur un ingénieur, elle se met à table, elle fait un petit croquis, elle dit « Oh oui, mais si on fait le même truc, looping, mais si on change un petit peu, et on fait une cascade de ça, peut-être ça marche. » Donc, avec ce petit papier de l'ingénieur, elle revient chez le directeur du théâtre. Elle dit « Ok, si tu veux vraiment risquer ta vie à faire ça, vous pouvez le faire ça, mais s'il vous plaît, essayez votre truc, pas à Paris, parce qu'on ne veut pas que donc, quand on fait le spectacle, que vous mourrez. » Donc elle cherche des places pour essayer son truc au nord du Paris, mais la préfecture dit « Oh, c'est trop dangereux, on ne veut pas. » Et elle prend son truc et son vélo, elle part à Marseille. Et là, pendant quelques mois, elle essaye son truc tous les jours. Beaucoup de fois, elle tombe, elle est dans les patates et c'est vraiment très, très difficile. Mais elle est très déterminée. Et après quelques temps, la cascade fait sur un point final et ça marche bien. Elle veut montrer son truc pour une grande audience à Marseille. C'est dans un théâtre Eldorado. Et le soir, quand elle fait son début avec ce qu'elle s'appelle la flèche humaine, la salle est pleine de gens, mais ils sont très, très, très excités. Et ils voient Hélène dans le toit du théâtre avec son vélo. Elle descend, elle vole dans l'air, mais les gens sont si excités qu'ils poussent contre tout son truc et elle tombe. Donc elle dit, ok, je vais arrêter ici et peut-être essayer d'expérimenter un peu. Mais le directeur dit, non, tu dois encore faire ton truc de nouveau, tous les jours. Elle disait, oui, j'étais à Marseille, j'avais pas beaucoup d'argent et on m'a obligé de refaire le truc, même que si j'étais blessé, c'était vraiment trop dangereux. La flèche humaine devient un succès énorme. Et tous les grands théâtres de Paris sont sur la première place pour avoir Hélène chez eux. Et comme ça, d'un jour à l'autre, la flèche humaine de Hélène Dutrieux à Paris est le plus grand succès qu'on a jamais connu. Ça. Elle est dans les journaux tous les jours. Il y a beaucoup de photos d'elle avec son truc.
L'acrobatie, la flèche humaine, a été réalisée avec succès hier après-midi dans la région la plus aride d'Angleterre. Mademoiselle Dutrieux, qui semble naturellement avoir des nerfs très solides, est apparue en tenue de soirée sobre. Et très clairement, on ne s'attend pas à ce que cette belle dame aux yeux sombres fasse autre chose que ce que l'on attend d'une femme ordinaire. Son vélo l'attendait en haut de la piste, à 20 mètres au-dessus du sol. Lorsque la légère performeuse est entrée dans l'arène, personne ne la pensait capable de se lancer dans une tâche aussi téméraire. Elle a été tirée au sommet de la montée abrupte par une longue corde, et pendant un certain temps, elle a ajusté ses jupes et fixé la selle. Après un vigoureux « Attention !», l'intrépide Dutrieux a plongé sur la pente. Elle a rapidement disparu le long de la pente opposée et s'est ensuite envolée, couvrant une distance de 15 mètres dans les airs. Lorsqu'Hélène atteint l'autre côté de la structure, elle salue le public en souriant. Les applaudissements ne s'arrêtaient pas. La performance a fait vibrer les nerfs des spectateurs et a été qualifiée à juste titre de sensationnelle. Bien entendu, nous nous abstiendrons de tout commentaire sur l'éthique de ce tour et sur le risque de mort fort probable encouru par cette femme à pratiquer cette acrobatie. Mademoiselle Dutrieux a l'intention de réaliser sa cascade dans le monde entier après ses représentations à Paris, Berlin et Londres. Nous lui souhaitons bien du courage et nous espérons qu'un accident lui sera épargné afin qu'elle puisse réaliser son rêve.
On doit très bien savoir que la cascade qu'elle fait, elle est très dangereuse. Quand elle roule avec son vélo, elle descend, c'était à 70 km/h. Mais les gens sont très exigeants et ils voulaient toujours quelque chose de plus spectaculaire. Donc en Allemagne, on demandait, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose de spécial pour nous ? Hélène dit, ok, je pense. Elle fait le même truc, mais maintenant avec une motocyclette. Et ça, c'est le bazar. Elle tombe de plus de 20 mètres avec la motocyclette qui tombe sur elle. Et les gens pensent qu'elle est morte. Il y a une ambulance qui vient, on met la Hélène au hôpital. Les docteurs pensent qu'elle est paralysée, mais miraculeusement, elle doit faire une révalidation très longue. Depuis presque 8 mois, elle ne peut presque pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire ? C'est écouter la radio et lire des journaux. Et elle voit qu'en Amérique, il y a des gens qui essayent de voler avec un avion. Et ça lui intéresse beaucoup. Donc, le premier jour qu'elle peut sortir de l'hôpital, elle va à Paris. Et là, à Paris, elle voit une des premières vols de Orville et Wilbur Wright en Europe avec un avion. Et Hélène dit, ah, c'est génial, je vais faire ça aussi. C'est un peu bizarre parce qu'elle était presque morte à cause d'une chute avec une cascade qui est très dangereuse. Et maintenant, au moment qu'il n'y a pas plus que 5 ou 8 pilotes au monde et que l'avion est très nouveau, elle veut devenir une pilote. C'est une femme très spéciale et très déterminée parce qu'elle essaye de contacter les fabricants des avions. Elle reçoit une lettre qui dit « Ah, on est très intéressé, vous pouvez venir chez nous. Et si vous êtes intéressé, on peut vous faire un contrat pour voler. » Elle est très, très, très contente. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'avion que ce fabricant fait, c'est un avion très léger et un avion très dangereux. Mais ça, elle ne sait pas. Elle reçoit son demoiselle, un petit avion, mais elle ne reçoit pas une formation. Donc, elle se met dans l'avion et un des ingénieurs lui dit « Ah oui, tu dois pousser pour ça et te tirer à ça et tu voles. » Hélène l'essaye, l'avion part. Elle fait un petit vol et elle fait un crash, une chute.
Dites-nous, Joséphine, puisqu'on te revoit, charmante et divine.
C'était en décembre 1908. La maison Clément Bayard m'avait demandé si je voulais m'essayer à voler sur une demoiselle Santos Dumont. J'accepte, je monte au milieu déjà d'une cinquantaine de personnes qui étaient arrivées on ne sait où en disant « Il y a une femme qui va voler, il y a une femme qui va voler. » Vous avouerez vraiment que j'avais très peur. Je demande à un mécanicien « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour voler ?» Il me répond, on m'a dit qu'il fallait tirer pour monter et pousser pour descendre. Il oublie simplement de me dire qu'il y avait un gauchissement à me mettre aux épaules, ce qu'on oublie complètement de m'installer avant mon départ. On lâche tout, je tire pour monter. N'ayant pas de gauchissement, arrivé à 10 mètres du sol, mon appareil se renverse à moitié. J'ai peur, je repousse pour descendre et je me retrouve dans un grand trou de boue.
Donc, mais ce que Hélène ne sait pas, c'est que le fabricant pense que la femme qui va démonstrer l'avion, elle va certainement mourir dans un ou deux mois. Donc, quand Hélène est en train d'essayer l'avion, ils sont déjà en train de former ou de chercher d'autres femmes pour voler cet avion. Et c'est la très célèbre cycliste Abou Kaya qui est le deuxième pilote pour prendre la démonstration quand Hélène sera décédée. Parce qu'ils sont très bien, ils savent très bien qu'elle ne va pas durer plus que quelques mois. Mais Hélène était très déterminée et elle devient une très, très bonne pilote. Mais après quelques temps, elle voit que la demoiselle, ce petit avion, n'est pas vraiment bien et c'est très dangereux de voler. Donc elle cherche un autre avion, elle fait des commandes chez d'autres fabricants, elle reçoit un ami à elle, elle dit « Ok, je vais vous aider, je vous donne un moteur. » Et un autre fabricant dit « Ok, je vous donne un truc d'avion. » Et comme ça, elle fait son propre avion, elle fait beaucoup de vols, beaucoup de démonstrations. Elle devient une des premières femmes qui volent dans le monde. On dit que la première femme qui a volé dans un avion, c'est Madame Delaroche en France. Mais c'est bien possible que Hélène était la première femme. Elle fait des démonstrations avec son avion partout, en Russie, en Italie, en Espagne, en Angleterre, et elle va même aux États-Unis. Elle fait beaucoup de vols, elle est très reconnue pour ce qu'elle fait. Elle fait des courses en Italie contre 14 hommes, elle gagne, et elle essaye de faire des vols spectaculaires. Elle est la première femme qui vole d'une ville à une autre, de Blankenberg à Bruges et retour. Elle est la première femme au monde qui vole avec un passager. Elle est la première femme qui fait un vol qui dure plus qu'une heure et des trucs comme ça. Donc on voit qu'elle est très talentueuse. Elle est célèbre du coup de nouveau, mais dans une autre branche. En 1913, Hélène Dutrieux reçoit la Légion d'honneur en France. C'est une des premières femmes qui reçoivent un honneur très grand comme ça. Et Hélène, quand on lui fait des interviews, elle dit « Oui, l'aviation, c'est très ok, c'est très spécial, mais pour les femmes, je ne propose pas qu'elles fassent aussi. » Et donc ça, c'est très bizarre parce qu'Hélène, elle a toujours dit « Ah, voler, c'est ce que je veux faire. » Et tout à coup, quand elle reçoit la Légion d'honneur, elle dit « Non, voler, c'est pas pour les femmes. » Mais elle sait très bien pourquoi elle dit ça. Parce que l'armée française a fait une étude sur le pilote parfait. Et elle trouve que le meilleur pilote, c'est une femme. Parce que elle pèse moins, les os sont moins, ont moins de poids que les os de l'homme. Et Hélène avait appris ça. Donc elle dit ça parce qu'elle ne veut pas que l'armée va profiter des femmes.
Women will rule the air. D'autres expériences ont été réalisées et les experts en charge sont parvenus à la surprenante conclusion que les femmes sont meilleures que les hommes pour piloter des avions. À l'avenir, il y a de fortes chances qu'elles dirigent les airs. Le rapport des scientifiques au département de la guerre donne 8 facteurs qui influencent cette suprématie. 1. La femme est plus primitive que l'homme. 2. Ses nerfs sont moins à vif et donc elle est moins nerveuse. 3. Elle ressent moins la douleur que l'homme. 4. Elle a besoin de moins d'oxygène pour respirer. 5. L'arc de sa vue est presque le double de celui de l'homme. 6. Elle possède la faculté d'attention diffuse qui fait défaut à l'homme. 7. Sa gravité interne est inférieure à celle de l'homme et la légère différence dans la structure de son squelette lui donne un énorme avantage dans l'air par rapport à l'homme qui est plus lourd. 8. Enfin, son éternuement est moins violent et l'avion est donc plus stable.
Et elle sait bien qu'il y a des tensions entre l'Allemagne et le reste de l'Europe. Et un peu plus tard, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Et le début de la Première Guerre mondiale, c'est aussi pour Hélène la fin de son carrière comme aviatrice. Tous les avions sont récupérée par l'armée France et Belge. Et Hélène, elle dit, ah, moi, je suis pilote aussi, je veux m'engager pour battre les Allemands. Et elle demande un avion. Elle dit, non, il n'y a plus d'avion pour vous. Et Hélène dit, ok, elle va en Belgique pour demander un avion pour battre les Allemands, mais elle est refusée. Elle revient même en Italie pour demander un avion et c'est toujours refusé. Mais elle est très têtue. Elle, tous les jours, elle vient au commandement en Paris et après quelques semaines, le commandement dit « Ok, on va vous donner un petit avion. On a encore un petit truc qui n'est pas assez bien, mais vous pouvez avoir cet avion. » Et comme ça, Hélène devient une des premières femmes qui vole dans la Première Guerre mondiale. Donc Hélène fait des vols de reconnaissance à partir de Paris et elle vole sur la France, elle voit les Allemands qui viennent, elle revient à Paris pour dire au commandement où sont les Allemands. Mais c'est un truc qui est très dur pour elle parce qu'elle doit se lever très tôt, voler, faire des vols de retour. Tous les jours, elle fait des photos en eau. Mais c'est très dangereux et en plus, elle n'a pas de fusée ou d'artillerie pour se protéger et pendant trois fois, elle est attaquée par des avions allemands.
J'aime la France, j'aime l'aventure. La plupart des hommes étaient appelés au front pour des travaux de reconnaissance strictement militaires et il y avait donc peu d'aviateurs disponibles pour la garde de Paris. Je connaissais mes compétences, j'ai dit au gouvernement militaire que je voulais faire ma part. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas être inscrite sur la liste de l'armée, que je ne pouvais pas avoir de position officielle, mais que je pouvais travailler en privé. Et c'est ainsi que, dès que la guerre a commencé, j'étais dans les airs pratiquement tous les jours, parfois tôt le matin pour faire du repérage, et parfois l'après-midi, et même tard le soir. À de nombreuses reprises, j'ai pu détecter des taupes qui étaient en route pour Paris. Les taupes, ce sont les avions de guerre allemands. J'ai donc pu descendre et prévenir les commandants des corps d'aviation pour qu'ils aient largement le temps d'envoyer des escadrilles, de battre et de faire donc fuir les envahisseurs. Je tournais en rond encore et encore, surveillant grâce à mes jumelles une machine allemande. Habituellement, je volais à une hauteur de 1400 mètres à 2000 mètres, mais parfois, je devais aller beaucoup plus haut à cause du brouillard.
Pendant la Première Guerre mondiale, Hélène est demandée par les Alliés de devenir ambassadrice pour aller aux États-Unis pour demander et montrer aux Américains ce qui se passe en Europe. Donc Hélène va aux États-Unis et elle fait des conférences, elle montre les photos qu'elle a faites dans son avion. Après la Première Guerre mondiale, Hélène se marie avec un homme très célèbre, un politicien, un écrivain, certain Monsieur Mortier. Et puis, quand elle se marie avec Monsieur Mortier, c'est une toute autre vie qui commence. Elle ne fait plus du cascard, elle ne fait plus des trucs bizarres. Elle devient simplement femme de Monsieur Mortier. Elle devient son secrétaire. Monsieur Mortier a quelques magazines. Et elle devient maintenant écrivante, auteure d'articles, surtout articles de sport et de l'aviation.
Le Monde Illustré, 21 août 1937. Le souvenir de Beaumont, par Hélène Dutrieux. C'est sur les ailes de la mort que Beaumont, le lieutenant Jean-Louis Conneau, vient d'accomplir son dernier raid. On oublie vite les premiers aviateurs et l'indifférence envers certains, comme celui-là, qui fut l'un des plus grands, a des odeurs d'ingratitude. Sans doute, leurs exploits semblent-ils aujourd'hui peu de choses à côté de ceux des héros de l'Atlantique ou du pôle Nord. Dans cette aurore de l'aviation, Beaumont rayonna. Ce lieutenant de vaisseau qui accomplit dès 1911 le premier raid Paris-Rome, le circuit d'Europe, le circuit de Grande-Bretagne et tant d'autres exploits, qui fit flotter les couleurs françaises sur toutes les capitales, avait les plus hautes vertus militaires. Fils du vaillant compagnon de l'impératrice Eugénie, il fut un des hardis pionniers qui unirent la science au courage et préparèrent par leur exemple et leurs leçons les grandes destinées de l'aviation.
À mon avis, Hélène Dutrieux a été complètement oubliée. dans les histoires, quand on lit les interviews avec elle, elle était un peu malcontente qu'en Belgique, elle n'a pas reçu beaucoup de reconnaissance. Elle a fait toujours l'idée qu'on l'avait oubliée en Belgique, bien que pour elle, elle était vraiment belge. Il y a des histoires où quand elle a fait une victoire avec des courses de cyclistes en Angleterre, après sa victoire, on jouait la Marseillaise et Hélène devenait furieuse. Elle dit non, je suis belge. Et donc on reprendait et on fait le Brabason après. Donc elle s'est toujours trouvée vraiment comme belge. On voit aussi quand elle fait des voyages, on est aux États-Unis, elle doit écrire son nom sur la liste des passagers. Elle dit toujours Hélène Dutrieu, tournée Belgique. J'ai même contacté la ville de Tournai et de Lille en France pour peut-être faire un petit musée sur Hélène Dutrieu ou une petite expo, mais personne ne s'intéresse. Donc ça, c'est un peu dommage. Les seules traces que j'avais trouvées de Hélène, c'était une toute petite rue à Tournai, la rue Hélène Dutrieu, et à Gand, de Hélène Dutrieu, l'âne. À Gand, c'est parce qu'il y avait un terrain d'atterrissage d'avion et elle a fait des vols là-bas. Donc c'est peu dommage qu'elle n'ait pas eu plus de reconnaissance comme ça, mais j'ai entendu qu'à Bruxelles, elle va avoir une petite ruelle Hélène Dutrieu aussi. Donc, on a fait le livre sur Hélène Dutrieu. Donc maintenant, je pense que son nom sera plus oublié.
Par rapport donc, à cette collection de marionnettes, il y a une figure en particulier qui fait partie de cette collection à présent, celle d'Hélène Dutrieu.
On voit régulièrement la naissance de nouveaux géants. Nous sommes sur un territoire de marionnettes, puisqu'on est en Picardie, avec des marionnettes traditionnelles ici à Tournai, les pas originelles, mais il y en a à Amiens, il y en a à Lille, et aussi un territoire de géants. Le dernier étant Clovis, on s'était dit, pour sceller aussi cet imaginaire de la liaison ou du rapport entre le géant et le minuscule, on va rêver à créer un géant. Nous avons décidé, donc, pour imaginer une nouvelle géante, de demander à un artiste spécialisé. Et on a invité M. Dorian Demarc, qui est un facteur de géants ici dans la région, de nous fabriquer une géante. Et en rêvant du personnage qu'on voulait représenter, on s'est interrogé sur les femmes de Tournai, qui avait marqué l'histoire. Alors, il y a déjà une géante à l'effigie de Christine de Lalanne. Il y aurait pu y avoir, parce que nous avons une héroïne aussi de guerre qui était Gabrielle Petit, avec une sculpture aussi représentative en son hommage ici dans un des quartiers. Il y a d'autres personnalités, mais on a trouvé Hélène Dutrieu. En Hélène Dutrieu, on a trouvé une héroïne extraordinaire, puisqu'elle avait cette envie d'aventure et d'exploit, je dirais, sportif. Et voilà, l'idée qu'elle soit nommée fille de l'air, la fille de l'air ou la flèche humaine, ça nous a touché au cœur, parce qu'on s'est dit, ben voilà, une femme belge de Tournai qui a pu être première dans deux dimensions différentes, que ce soit le ciel ou la terre. Nous, notre exposition s'appelle Marionnettes du monde entre terre et ciel. On trouvait que ça faisait le lien et qu'en plus, à un moment donné de sa vie aussi, elle a été comédienne et elle a fait des acrobaties dans des salles de spectacle. Et on se disait, mais alors, si elle a aussi participé au spectacle vivant, elle a ouvert les voies du ciel pour certaines femmes puisqu'elle en a entraîné d'autres. Elle a été vraiment elle a promotionné aussi l'aviation pour les femmes en France jusqu'à la fin de sa vie. On s'est dit, ben voilà, un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé, même si maintenant, on retrouve à Tournai une rue à son nom. Il y en a une aussi à Bruxelles. On s'est dit, ben voilà. On va essayer, au fil du temps, après, quand on aura le personnage vraiment construit, on va essayer de raconter son histoire, petit à petit, par des épisodes et par différentes sorties. Mais pour la dessiner, il a fallu s'interroger. Pourquoi ? Souvent, les géants sont des géants qui sont portés. Or, Hélène Dutrieux, cycliste, on s'est dit, ah, il pourrait peut-être y avoir quand même quelque chose d'autre. Elle ne pourrait peut-être être construite avec autre chose, elle, ne pas être portée, mais peut-être roulée. Alors, on a inventé qu'elle ait des jambes, qu'elle ait un corps de géant. Donc, c'est-à-dire qu'elle a un torse de géant avec une tête et la représentation du costume d'une aviatrice. Mais elle a également une jupe en rotin, comme les vrais géants, qui n'est pas recouverte de tissu. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on voit ses jambes, qui, dans quelques temps, on a le système, et nous ne l'avons pas encore essayé, parce qu'on fait petit à petit, on découvre la géante petit à petit, et elle aura... un système de roues à ses jambes qui permettront de montrer qu'elle peut également, même si elle touche le ciel avec sa flèche et ses bras qui sont articulés, elle pourra aussi rouler sur le sol. Et donc voilà, c'est une construction hybride, une marionnette dans un corps de géant. Évidemment, il va falloir trouver une bonne manipulation. Nous l'avons seulement présentée donc le 25 septembre 2022. Lors de Place des Marionnettes. C'était sa naissance. Elle était entourée de grands géants représentant d'autres grandes marionnettes de l'histoire de la marionnette, ou des géants de Tournai et d'ailleurs. Et voilà, c'était une fête pour nous. Il y avait des marionnettes, il y avait le public, des marionnettistes, des géants, des porteurs de géants, de la musique. C'était extraordinaire pour nous.
Passé. Elle flait compte sur l'homme, tes peaux qu'une petite femme ont un vie. Et tu, sulpiste comme un homme, te carré tu fil droit, un gagnant tous les prix. Hélène, dont la vie elle striboule, et six vélos elle roule, une championne qui
s'amuse. Donc j'écris une chanson qui s'appelle Hélène, sur Hélène Dutrieux, pour un concours qui, a priori, n'est jugé que par des hommes dont l'origine est un groupe ancestral qui écrit en picard et dont ne font partie que des hommes, et qui jusqu'il y a récemment et même encore un peu aujourd'hui réserve une partie de ses représentations en public aux hommes. Et je l'ai écrite un fémage à Hélène Dutrieux, en fémage à Hélène Dutrieux, en me disant que même si c'était anonyme, il reconnaîtrait malgré tout une écriture féminine dans ce concours praillé. Et j'avais envie de le faire comme ça, j'avais envie de dire que dans notre histoire commune, ici à Tournai, il y a plusieurs comme ça, moi je les appelle des héroïnes, qui sont des exemples à mettre en avant pour les filles, pour les femmes et pour taire tous et taire tous, on dirait ici, pour tout le monde, parce que elles sont un peu parfois les oubliées de nos histoires, alors qu'elles peuvent les inspirer. Elle va faire partie du spectacle des ficelles picardes que nous allons mettre en œuvre en mars, début mars, qui s'appelle « Il y a encore de l'ouvrage », ça veut dire « Tout est à faire ». Le spectacle vient du changement, de l'arrêt à la Cour de cassation par rapport au droit à l'avortement. Le lien peut paraître bizarre, mais c'était dans la première réunion de création de notre spectacle, l'idée qu'on allait parler de plein de choses et du monde d'aujourd'hui et du monde qui vient, en se disant, avec les constats, mais aussi avec de l'humour, et en se disant avec espoir qu'il y a encore moyen que des choses puissent changer. Voilà. Et donc, Hélène, c'est comme j'explique à la fin de la chanson, C'est, il y a eu toujours une forme de liberté dans ce qu'elle a fait, dans ce qu'elle a dit, dans ce qu'elle a vécu, qui, et elle a pu avancer avec cette forme de liberté. Il y a une part d'elle que j'admire et que je ne saurais pas forcément vivre, c'est ce goût du risque, de la vitesse, ce fait de foncer en oubliant toute une série de choses. Mais à la fois, c'est un bel exemple de tout ce qu'on peut mettre en œuvre par envie, par désir, et puis voler quand même. Le fait que les convenances sont sûrement quelque chose d'important, la manière dont les choses devraient se vivre dans des choses qu'on a pu lire d'elle, peser sur elle à certains moments de sa vie, mais ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de ses rêves, et ça quand même, c'est un bel exemple.
Elle a grandi toute belle. Hélène à Bacha, Bruxelles, nous révèle un sorchel. Elle est un nom, Rachène. Hélène.
Son histoire est toujours très up-to-date. Toutes les conquêtes qu'elle a dû faire, se battre contre les hommes pour avoir ses propres droits. C'est toujours très, très, très au courant des jours aujourd'hui. Le fait qu'elle ne gagnait pas assez d'argent que les hommes en faisant le même truc, c'est toujours le même truc dans nos jours. Et quand elle est aux États-Unis, elle est très reconnue par les suffragettes. Pour elle, Hélène est vraiment une modèle de rôle. Quand les suffragettes viennent sur la rue pour demander plus de droits de vote, elle exclame même Hélène Dutrieux pour président. Bien qu'elle n'est pas américaine et elle ne s'intéresse pas aux politiques, Hélène est très heureuse avec l'attention qu'elle reçoit des suffragettes. Elle fait même des conférences pour eux sur le courage et sur le futur des femmes. Donc c'est très intéressant parce que Hélène dit de soi-même qu'elle n'est pas féministe, mais dans le cœur et dans tout ce qu'elle fait, elle est vraiment féministe. Elle est dans les journaux tout le temps. Elle fait beaucoup attention aussi avec les trucs. Elle dit « Ah, je ne porte pas de corset. Je fais du vélo sans corset. Je vole sans corset. » Elle dit « Si un homme me veut, il doit m'aller chercher quand je suis en train de voler. » Donc elle met son truc très, très beaucoup sur le fait qu'elle veut être indépendante.
Le cyclisme féminin était beaucoup plus populaire en Angleterre qu'en France. Et les commentaires étaient bien différents. Les vélodromes étaient parfois visités par des personnes aux intentions déshonorantes. À Londres, les gens pensaient que je faisais mes tours pour trouver un mari. « Vous faites du vélo dans un but romantique, vous voulez trouver un mari, n'est-ce pas » m'ont-ils dit. Et je leur répondais simplement « J'ai reçu des offres, des demandes en mariage, mais je n'ai pas du tout l'intention de me marier, loin de là. » Leurs demandes, je les ai toutes refusées.
Le passionné que vous venez d'entendre, c'est Gunther Segers. Il a passé de nombreuses années à collecter des milliers d'articles, vidéos, textes, visuels à propos d'Hélène Dutrieux. Son ouvrage, entièrement consacré à la Tournaisienne, est certes en néerlandais, mais un puits de souvenirs pour se replonger dans l'histoire. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous avons pu récupérer la voix de notre chère Hélène. Un grand merci aussi à Sophie Ducrotoir, des filles Celtes Picardes, pour l'interprétation de sa chanson « Hélène » sur la mélodie de la Grenade de Clara Luciani. Merci aussi à Françoise Flabat, directrice du Centre de la Marionnette et conservatrice du Musée des Arts de la Marionnette de Tournai, pour son accueil. Il était une fois nos femmes wallonnes est une série de podcasts qui redonne vie à des femmes qui ont marqué et marquent l'histoire peu connue, voire oubliée, de la Wallonie. Qu'elles soient actrices, peintres ou autrices, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre matrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultravague, soutenue par Startinvest. À l'interview, Héloïse Rouard, à l'écriture et au montage, Cassie Enaf, au mixage, Marius Adam, à la prise de son, Noémie Lalou, Anne-Sophie Skitekat et Lionel Capouillet. À l'interprétation, Gaël Swan, les visuels sont de Gilda Fellé et la voix off, c'est moi, Jessica Rigaud.